Bonjour et bienvenue dans le podcast Penser la santé. Nous nous retrouvons pour la troisième partie de l'épisode consacré aux questions posées par le patient partenaire. Lorsqu'on parle de patient partenaire, on fait référence à ces personnes vivant avec une maladie chronique qui, au fil du temps, développent une véritable connaissance intime de leur pathologie et des gestes de soins qui y sont associés. Vivre avec une maladie pendant longtemps permet de l'apprivoiser, de la comprendre, d'identifier des signes ou des symptômes que d'autres ne perçoivent pas, mais qui peuvent être essentiels pour savoir comment réagir. Ainsi, apprendre à connaître sa maladie, c'est aussi une découverte de soi-même. Cela implique de prendre conscience des subtilités de son corps et de les associer à l'évolution de son état. C'est créer des repères qui, peu à peu, permettent de sortir de l'inconnu et de se libérer du rôle de victime. Mais cette connaissance personnelle ne s'arrête pas là. Elle crée un savoir interne, une expertise propre, fondée sur l'expérience vécue. Et ce savoir peut être un véritable soutien pour d'autres patients. En partageant leur vécu, ceux qui ont appris à apprivoiser leur maladie peuvent aider les nouveaux malades, ceux qui viennent d'être diagnostiqués et qui se retrouvent souvent sans repère. Cette dynamique, qu'on appelle aussi la pair aidance, favorise une forme de solidarité entre anciens et nouveaux patients, réduisant ainsi le sentiment d'isolement et facilitant l'adaptation. Ces patients qui deviennent experts de leur propre maladie ont aussi un rôle essentiel à jouer auprès des soignants. Leur expérience peut fournir des informations précieuses pour ajuster les soins, comprendre les impacts des traitements, adapter le quotidien ou encore mieux communiquer avec les patients. Cette collaboration vise à développer une médecine plus humaine et plus collaborative, loin d'une vision unidirectionnelle où le savoir médical domine le patient comme un objet. Donner au patient un rôle actif dans son propre soin, écouter ses observations et ses ressentis comme des informations pertinentes, voilà une nouvelle approche de la médecine qui met l'humain au cœur du soin. Comment une personne malade peut-elle devenir un expert de sa propre pathologie? Quel rôle les patients peuvent-ils jouer dans l'amélioration de leurs soins? En quoi la collaboration entre soignants et patients transforme-t-elle la médecine? Pour réfléchir à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Abal, qui est médecin de réanimation en médecine néonatale et maternité à l'Hôpital des Enfants et au Centre de compétences maladies rares malformations faciales du CHU de Toulouse. Fabienne Ragingir, qui est patiente partenaire, cofondatrice de l'association Savoir Patient, chargée de projet pour le dispositif Centre opérationnel du partenariat en santé en Occitanie et qui est également membre du Conseil pour l'engagement des usagers de la Haute Autorité de Santé et membre du Conseil d'administration de l'Association des diabétiques d'Occitanie et de France Asso Santé Occitanie. Et Patrick Lartiguet, qui est enseignant-chercheur, maître de conférences associé en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université Jean Jaurès et qui est spécialiste du partenariat patient. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Ce qui semble être au cœur de l'idée du partenariat en santé, c'est quand même l'autonomie du patient, c'est-à-dire la place du patient est repensée comme un lieu de production de savoir tout aussi valable, même s'il est différent, que le savoir médical, et qu'on établit un dialogue entre ces deux types de savoir. Est-ce que cette recherche d'autonomie, elle peut pas, elle court pas le risque de mal tourner? C'est-à-dire, est-ce que en accordant beaucoup de valeur au ressenti des patients ou des parents de patients, on ne risque pas d'écarter des données médicales qui pourraient peut-être aussi aider le patient? Alors, en disant ça, je pense à mon champ d'études qui sont les soins critiques. Bien souvent, les patients n'arrivent pas dans les soins critiques à se rendre compte de ce qui leur arrive. Et d'un autre côté, je vois bien que quelqu'un qui a vécu une période de réanimation, par exemple, et qui a évolué avec tout ce que génère cette période de réanimation, peut vraiment partager quelque chose de très important avec les autres patients qui se retrouvent dans cette même situation. Ma question, c'est finalement, l'expertise des patients et l'expertise des soignants portent sur des aspects assez différents, mais est-ce qu'ils ne risquent pas d'entrer en concurrence ou de se contredire?
L'intention du patient partenaire
et du professionnel de santé, c'est le même. Mmh. Avec cette vision d'améliorer le soin. Et d'ailleurs, par rapport aux approches de l'éducation thérapeutique, on n'est pas dans une approche centrée patient. Mmh. On est sur une complémentarité des regards, et ce qui est au centre, c'est le projet de soin. Oui. Autre chose que j'ai envie de dire, qui pourrait paraître un petit peu brutal, et au final, là je reviens aux lois sur le droit des malades, qui parle de consentement éclairé, et qui parle de décision. Qui, in fine, qui prend la décision ? Est-ce que qui je suis moi pour prendre la décision pour l'autre ? Mmh. Donc, si on ne veut pas rentrer dans cette logique de confrontation, effectivement, c'est tout l'enjeu du partenariat.
Oui.
D'arriver à se dire, ben voilà le projet de soin, et donc on n'est pas dans une lutte, une concurrence entre moi je sais ce qui est bon pour vous, et moi patient, de toute façon c'est mon droit. Si on est dans cette logique-là, et ça existe aussi, hein, on est dans une logique de confrontation, mmh. et on voit bien que c'est ce qui suscite des dysfonctionnements, les plaintes, et qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir des expériences très... des vécus très négatifs mmh. dans la relation de soins.
Et on court le risque d'un refus de soins, d'une rupture du suivi aussi.
Alors, vous voyez, quand on utilise, je me souviens avoir fait une formation en IFSI, pas très loin d'ici, et le module s'appelait refus de soins. Très concrètement, c'était un cas, donc ils voulaient faire intervenir des patients partenaires pour parler de ce module, lors du module refus de soins. Et en fait, ils avaient pris un cas où une personne qui avait un diabète de type 1 ne voulait pas la dose d'insuline que voulait faire donc, l'infirmier, parce que lui disait, bah, moi je me connais, je sais que si on fait cette dose d'insuline, je serai en hypoglycémie à 16 heures, tout ça. De la co-construction avec l'équipe pédagogique de cette IFSI, on n'a plus été sur le refus de soins.
Oui.
On a été, et donc le module s'est appelé la rencontre.
Mmh.
Ce qui, d'un point de vue du professionnel par rapport à un objectif de soins était qualifié de refus de soins, la co-construction pédagogique avec des patients partenaires, c'est-à-dire au final, effectivement, ce n'est pas un refus de soins.
Mmh.
C'est une rencontre de savoir qui fait qu'à un moment donné, on va s'entendre pour avoir la meilleure dose d'insuline mmh. à administrer par rapport à ce que le médecin pense et par rapport à ce que tout le vécu de la personne. Donc effectivement, la concurrence pour qui ? Et aujourd'hui, et j'entends aussi le monde du soin qui est quand même en souffrance, autant se le dire.
Oui.
On parle souvent de l'hôpital, on ne peut pas dire que ça soit aujourd'hui un monde de bisounours, quoi. C'est un milieu en souffrance où le professionnel de santé sont, je dirais pas maltraités, mais où l'institution...
Éprouvée.
Voilà, merci Flora. Éprouvée. Et donc leur dire, ben, demain vous allez être partenaire avec des patients, sachant que depuis 20 ans, quand on entend parler des patients, pour peu qu'on ait de souvenirs des représentants des usagers issus de la loi de Kouchner 2002, qui était dans une logique de confrontation... Ben effectivement, il y a des résistances. Il y a des résistances, et donc l'argument de dire, de toute façon, ils ne vont pas nous remplacer. Nous, mmh. on a fait quand même 8 ans d'études. Ce n'est pas un patient, parce qu'il vit une maladie, qui va nous dire comment soigner. Donc effectivement, on pourrait penser qu'on est dans une logique effectivement, de concurrence, mais c'est là que, et je trouve que le témoignage de Madame Abal est très important, qui a eu un déclic. Et c'est pas parce qu'on me l'a enseigné, c'est parce que dans cette perspective de faire de mon mieux pour mes patients, j'ai entendu quelque chose qui m'a bousculé,
oui.
et qui me dit mais oui, c'est ça qui me manque. Enfin, je me permets de le dire, docteur, quelle dose d'humilité par rapport à votre métier, d'arriver à se dire ça et que demain je serai meilleur en tant que professionnel de santé, en tant que médecin, si j'intègre ces savoirs issus du vécu et je ferai un meilleur soin. C'est ça la logique du partenariat.
On sera dans la co-construction du soin.
Oui, c'est ça. C'est ce qu'on comprend. C'est pour ça que la question de refus est complètement mise de côté, finalement.
Et quelque
si
part,
on co-construit, c'est
le,
plus...
Le choix du terme « refus
ouais. »,
on est toujours dans le paternalisme médical. Il n'a pas été observant, parce qu'il a refusé le soin.
Ouais.
Mais du point de vue de la personne, c'est pas qu'il a refusé le soin. Il n'a pas refusé. Au contraire, sinon il ne serait pas en vie. Hein.
Si ouais,
en l'occurrence, pour cet exemple, si une personne qui vit avec un diabète de type 1 ne se fait pas d'injection d'insuline, il meurt. Bon, force est de constater qu'elle est toujours vivante. Hein. Donc elle sait très bien cette personne, et puis il y a des écrits par rapport à ça, hein. Et notamment par rapport à l'autonomie. Hein. Je cite Philippe Barrier, qui est philosophe, et qui a écrit un livre qui est « La blessure et la force », qui est magnifique, hein, et qui parle d'autonormativité.
Oui.
Il s'appuie sur la vision de Canguilhem, le normal et pathologique, et ça, moi, c'est quelque chose qui m'anime dans mon quotidien, qui s'appuie sur l'élan vital propre à chaque individu pour prendre soin de lui. Même si des fois on peut se poser la question de comportements inadaptés de certains patients, quand un patient pose un comportement inadapté, il nous dit quelque chose de son vécu avec la maladie. Notamment pour quand vous travaillez en pédiatrie avec les ados, quelquefois, prennent la maladie comme otage, justement, pour nous dire quelque chose de bien. Voilà. Et donc, c'est ça aussi. Il y a un autre philosophe, c'est Pierron, que vous devez connaître, qui parle que le médecin père, P-E-R-E, avec accent, mute en médecin père, P-A-I-R. Dans le sens qu'aujourd'hui, avec l'explosion des maladies chroniques, il est plus dans une relation d'accompagnement que dans une relation, je sais ce qui est bon pour vous.
Pour aller plus loin, si on réfléchit à l'importance des pères dans l'éducation, plus loin et en même temps d'un autre côté, si vous voulez. Et là, donc, je pense au-delà du domaine de la santé, c'est une importance cruciale de créer des relations qui vont nourrir une image de soi-même, qui vont aider à identifier à quelle place on se situe, où on voudrait se situer. Et donc, l'éducation thérapeutique peut être pensée d'abord comme une éducation, c'est-à-dire comme une zone d'apprentissage de soi-même, de sa situation, de son rôle. C'est même peut-être encore plus le cas dans la santé si l'apprentissage porte sur la détermination de qui nous sommes. Dans la maladie, il y a une sorte de rupture avec la vie d'avant. Dans le cas où la maladie émerge au cours de la vie, c'est un moment où il faut aussi retrouver un sens à sa vie, pour ne pas se sentir spectateur. Et donc, la présence des pères, elle peut être déterminante de ce point de vue. Dans un sens, on pourrait dire que c'est une intervention, l'intervention des pères, qui a un sens existentiel, qui remet dans son existence.
Moi, ça me fait penser à un auteur qui s'appelle Ben Saïd. Je fais mon universitaire, là, hein, aujourd'hui, qui parle d'être autrement le même. Mmh. Vivre avec la maladie, effectivement, il y en a avant et après. Mais ce que dit Ben Saïd, si il faut changer pour vivre avec la maladie, il dit si on change, quelque part on meurt. Et donc l'enjeu, c'est pas tellement de changer, c'est d'être. Et je rejoins ce que vous êtes en train de dire, hein, être autrement le même. Et je trouve que c'est ça aussi le sens du soin, parce qu'on dit qu'il faut changer de comportement, il faut adopter des comportements, il faut manger mieux, il faut... la personne fait comme elle peut, et c'est déjà pas mal, et tout l'enjeu c'est d'intégrer que désormais elle vivra avec une maladie.
Donc c'est trouver aussi ses repères dans une autre existence qu'on réapprend, quelque chose comme ça. Et alors, chez les professionnels de santé qui s'intéressent à l'éducation thérapeutique ou au partenariat, uniquement à l'éducation thérapeutique, il y a une question qui revient très souvent, c'est celle de la motivation. Comment motiver une personne malade à aller mieux? Et donc, comment la motiver à prendre soin d'elle-même? Et est-ce que ça, c'est une question qu'on vous adresse en tant que patient partenaire, Fabienne? Est-ce qu'on vous demande ça? Dites-nous comment donner envie aux patients de prendre soin d'eux.
Alors, la question qu'on pose souvent, c'est comment faire pour que les patients soient observants?
C'est un peu ça, c'est-à-dire, en fait, on revient sur ce modèle où on sait ce qui est bon pour eux,
oui,
et on veut leur faire faire. Quoi.
Voilà, donc motiver une personne à aller mieux, en principe, il n'y a pas beaucoup besoin de motivation pour vouloir aller mieux. La question, c'est comment aller mieux? Est-ce que c'est en appliquant stricto sensu un protocole, ou est-ce qu'il y a d'autres moyens? En fait, si la réponse à la question comment motiver une personne à prendre soin d'elle-même était dans une armoire magique dont les patients partenaires avaient les clés, ça se saurait. Mais pour autant, je pense que la réponse, elle est dans chaque patient prise en soin par les professionnels. Et que ce qui est important, que la clé, c'est peut-être que les professionnels fassent le pas de côté, en se disant qu'on ne sait pas forcément ce qui est bien pour l'autre. Et pour le savoir, il faut lui demander, il faut discuter, il faut échanger avec lui, il faut co-construire un projet thérapeutique. Et, faut lui donner, enfin, et le fait de participer en fait, à la co-construction du projet thérapeutique va être motivant, va aider la personne à trouver une motivation intrinsèque à prendre soin de lui et surtout les moyens pour le faire dans les limites de son pouvoir d'agir. Je pense souvent à un ami cher qui a une sclérose en plaques qui me dit, quand on me dit « prends soin de toi », il dit « mais comment je fais pour prendre soin de moi dans l'état où je suis ?» Et donc l'idée c'est de pouvoir cheminer avec lui, professionnel, père aidant, association, sur l'acceptation de nouvelles situations de vie dans lesquelles il va pouvoir continuer à se développer et à vivre au mieux avec les moyens qu'il a.
Donc finalement c'est l'idée d'une adaptation au vécu, à la situation ressentie et accompagner l'évolution de ce ressenti finalement pour se s'emparer de ce qu'on vit, quoi. Ne pas être spectateur, c'est ce que je disais
tout
à l'heure.
C'est ça, évoluer et continuer à se dire que oui, on est toujours soi, notre situation change et on peut trouver les moyens pour continuer à vivre le mieux possible, avoir des nouveaux projets, des nouveaux outils, des nouvelles rencontres.
Et de votre côté, Julie, le rôle du père aidant ou du patient partenaire a sans doute un impact sur la situation du parents dans le soin, c'est-à-dire comment il va s'engager dans le soin, parce que là aussi il peut y avoir une sensation d'être dépossédé de son rôle de parent, c'est pas évident, surtout dans le service où vous travaillez, de se sentir parent de cet enfant pour lequel on a du mal à l'approcher, on a du mal à le toucher, enfin j'imagine...
Oui,
là,
complètement, ouais. C'est vrai que la néonatologie, il y a quand même ce côté particulier où c'est des naissances qui sont souvent très traumatisantes, inattendues, brutales, dans des contextes très anxiogènes. Et on demande aux parents de devenir parents alors qu'ils ont parfois même pas rencontré leur enfant avant qu'ils soient hospitalisés dans le service. Alors on est très attaché au fait de pouvoir montrer le bébé avant qu'il soit hospitalisé. Il y a de rares fois où c'est pas possible, mais de manière habituelle, on va toujours, même si c'est un enfant qui est lourdement réanimé, qui est intubé sous respirateur, faire un petit détour par la salle d'accouchement, la salle de césarienne, pour que les parents puissent rencontrer ce bébé. On va demander à l'accompagnant de la maman qui vient d'accoucher de nous suivre dans le service jusque dans l'endroit où va être installé le nouveau-né. Mais malgré tout, c'est très compliqué devenir parent.
Oui, oui.
D'être dans ce milieu, comme vous l'avez évoqué, qui fait peur, où il y a beaucoup de machines, où on demande la permission aux soignants pour savoir si on peut toucher son enfant, si on peut lui parler. Donc, demander aux parents, dans ce contexte-là, de se sentir parent, de se sentir légitime, d'être en capacité d'analyser les besoins de son enfant, de l'exprimer aux soignants, de partager tout ça pour construire un projet ensemble, et ben ça se fait petit à petit. Ça prend du temps, il faut brusquer personne et donner l'opportunité à chacun d'y arriver à son rythme. Et effectivement, la père aidant, c'est le vécu d'autres parents qui sont passés par ce type de situation, que ce soit via les associations de parents ou via un patient partenaire, ben c'est très précieux. Nous, les professionnels, on fait ce qu'on peut, et je pense en particulier aux infirmières, aux auxiliaires de puériculture qui accompagnent ces parents 24 heures sur 24. Elles font un super travail de ce côté-là, et c'est une des priorités de redonner sa place de parent aux parents. Mais je crois que malgré tout, la parole d'un parent a plus de poids auprès d'un autre parent que la nôtre. Ça, Delphine Vissac, avec qui je fais les consultations, me le dit souvent. Si nous, on dit « mais vous inquiétez pas, ça va aller », ils disent « oui, bon ». Elle dit ça pour me rassurer, mais en vrai, je sais qu'elle y croit pas trop. Tandis que quand c'est un parent qui dit ça, je suis passée par la même situation, ça va aller, vous allez y arriver, et ben ça, c'est beaucoup plus parlant et beaucoup plus crédible pour les autres parents, donc c'est beaucoup plus aidant.
Le père inspire aussi confiance, et puis on voit le chemin qu'il a parcouru, et là où on en est, ça, ça peut aussi donner de l'espoir, quoi. J'imagine.
Complètement. Ouais.
Et ce sera ma dernière question. Si on voit le patient partenaire comme rééquilibrage de force, en tout cas le partenariat, si on le voit comme un rééquilibrage de force, ou ne serait-ce qu'un changement de modèle, hein, c'est ce qu'on a dit déjà tout à l'heure, où la parole des patients est portée jusque dans une sorte d'institutionnalisation dans les établissements, c'est qu'il y a une portée politique dans ce projet. Je veux dire par là que travailler à la modification du fonctionnement des relations de santé devrait finalement avoir un impact sur les politiques de santé publique. Est-ce que c'est une perspective importante pour vous qui êtes engagée dans ce partenariat?
Je crois vraiment à l'impact politique au sens premier du terme, du partenariat en santé, puisque c'est une démarche qui crée des conditions favorables au mieux vivre ensemble. Le slogan, les savoirs de chacun, le bien-être de tous. Donc reconnaître, s'appuyer sur les visions et les contributions de toutes les personnes dans leur diversité, penser et agir ensemble avec un objectif commun, c'est faire société.
Forcément politique dans ce cas-là.
Et c'est une approche qui est proche de l'approche inclusive et des changements de modèle à soutenir. Et puis on voit bien l'évolution du système de santé, le décret dont a parlé Patrick. On voit que les lignes bougent.
Voilà, l'évolution, elle est en cours.
Est en cours. Je vous renvoie aussi au guide de la Haute Autorité de santé, renforcer la reconnaissance sociale des usagers pour leur engagement et leur participation dans les secteurs social, médico-social et sanitaire, avec des principes pour alimenter une doctrine de la reconnaissance sociale de l'engagement en santé.
Alors moi je suis complètement d'accord, c'est un sujet éminemment politique. Moi j'ai eu la chance de faire une conférence organisée par le ministère de l'éducation nationale avec tous les recteurs et les académies de France sur le sujet comment on peut faire du partenariat dans l'éducation nationale. Donc ça ne s'arrête pas au champ de la santé.
Oui, c'est bien plus vaste.
C'est la place du citoyen, de l'usager dans la société. Je rejoins évidemment ce qu'a dit Fabienne. Moi, il se trouve que j'ai fait ma thèse sur le partenariat en santé, sur l'approche de l'émancipation, et en m'adossant aux travaux de Paulo Freire, où, au final, ensemble, quand dans cet apprentissage réciproque, si je reprends et reformule les propos de Paulo Freire, mais qu'on a entendu aussi pendant ce podcast, quand il y a un engagement réciproque, ensemble, on transforme le monde. Mmh. Et oui, le partenariat en santé, c'est une histoire de justice sociale, c'est une histoire de démocratie, et c'est une histoire d'éthique. Mmh. Au-delà de la relation de soins, des travaux de chercheurs en sciences de l'éducation, je citerai notamment Olivia Gross, parle des injustices épistémiques, le fait de ne pas reconnaître les savoirs de l'autre, qu'on va qualifier de profane. Mmh. Rien que le mot de profane interroge. Mais à partir du moment où on dit que oui, la personne qui vit une expérience a potentiellement construit potentiellement des savoirs qui sont utiles à la société, et oui, c'est un projet politique.
Moi, ce que je voudrais dire, c'est que le développement de cette manière de soigner, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour les patients, c'est gagnant pour les soignants, c'est gagnant pour la société. On a évoqué les refus de soins. Je pense effectivement que quand on est dans ce partenariat, on y est moins confronté. Les soins, de manière générale, se font plus facilement parce qu'ils sont mieux compris. La manière de les faire est partagée par le soignant et le soigné. Donc s'adapte davantage à chacun. Je dirais que le savoir de théorique du médecin va s'adapter à la singularité de chaque patient. Et ça, on ne peut pas l'apprendre dans les livres. C'est qu'en rencontrant la personne. Et on a quand même beaucoup plus de chances de réussite dans les soins quand ça se passe comme ça. Donc, au niveau de la politique de santé, ça ne peut être que bénéfique. Et je crois que tout le monde est en train de le comprendre. La formation des soignants est en train de se développer. J'ai évoqué que, moi, je n'ai pas le souvenir que ça avait fait partie de ma formation théorique, mais on n'a pas dit quel âge j'avais. On ne va pas le dire.
Très jeune.
Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est en train de se développer, ça existe. Ça se développe sur le côté pratique. Il y a des DU, il y a tout un tas de formations qu'on a évoquées tout à l'heure. Il y a des recommandations de sociétés savantes, quand j'ai évoqué la visite centrée sur la famille. Donc, les choses bougent et dans le bon sens.
Merci beaucoup Fabienne Raguinger, Patrick Lartiguet et Julie Abal. Merci à tous les trois.
Merci.
C'était Flora Bastiani pour Penser la Santé, le podcast du réseau de recherche Penser la Santé de l'Université Toulouse Jean Jaurès.